C'est un brin d'histoire. Je suis Christian Lacombe et j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Et j'appartiens à plusieurs associations d'histoire locale. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du royaume des Visigoths et de leur présence en Occitanie. L'occupation des Visigoths dans le sud-ouest de la France s'étend tout au long du 5e siècle, de 418 à 507 de notre ère. Comment ce peuple est-il venu s'installer dans le sud-ouest de la Gaule? L'origine des Goths serait la Suède ou la Pologne. On les retrouve au 2e siècle le long de la Vistule, au 3e siècle en mer Noire. Là, ils se séparent. Les Ostrogoths vont vers le Levant, les Visigoths à l'Ouest. Les Goths sont le premier peuple barbare à se convertir du paganisme au christianisme par l'influence d'un prédicateur anatolien, Ulfilas, disciple d'Arius, qui traduira d'ailleurs la Bible en germanique, et fera d'eux des Ariens. Ils seront considérés comme des hérétiques, car ils ne font pas du Christ un dieu, mais un homme d'essence divine. Ils contestent donc la consubstantialité adoptée par l'Église qui est trinitaire, elle. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont divins. Les grandes invasions de la fin du IVe siècle vont voir déferler les Huns venus de Mongolie. Tout cela va entraîner des mouvements de migration. Les Visigoths partent vers le sud, passent le Danube et vont se heurter aux Romains. Ils vont piller Byzance, envahir l'Asie mineure, se retirer après leur vol. Les Romains mettent un terme provisoire à leur expansion, les enrôlent même dans leur armée. Nous sommes en 350 et Ariaric donne son fils même en gage d'otage aux Romains. L'empereur Valérius engage des négociations de paix, considérant leur présence utile. Il leur assigne même des terres. Venu du Caucase, ce peuple agira aussi bien par négociation, en passant sans cesse de l'état de la paix armée, à celui de la guerre, déstabilisant ainsi l'Empire romain. Ainsi, peu après, victime de vexations, ils se révoltent. Ils battent Valens-Andrinople en 378 et pendant 4 ans, errent dans les Balkans, eux-mêmes victimes des Alains et des Quades. Leur chef est Alaric. Intelligent, cultivé, il réussira à s'emparer de Rome le 24 août 410. Il en organise le sac. Ni Hannibal, ni Spartacus n'y étaient parvenus. Pourtant, leur nombre n'est pas important. 40 000 individus et 8 000 guerriers. Il mourra peu après en Calabre. Cette victoire sur Rome place les Visigoths parmi les premiers des peuples barbares. Mais en même temps, en ce début du 5e siècle, les Vandales déferlent sur l'Empire romain et se répartissent pendant 3 ans en Gaule. Ils saccagent les campagnes, affament les villes qu'ils pillent. Angoulême, Bordeaux, Albi. Seule Toulouse est épargnée des Vandales, malgré un long siège, grâce à ses fortifications du 1er siècle et au courage de son évêque Exupère. En 409, les Vandales libèrent le sud du territoire toulousain pour passer en Espagne. Quant aux Visigoths, restés en Italie, l'usurpateur Jovin leur promet livraison de vivres et les autorise à venir en Gaule. Ils franchissent donc les Alpes, dirigés par leur roi Ataulf. Honorius, l'empereur romain, ne tient pas cet engagement promis. Alors, ils envahissent l'Aquitaine, la Novempopulanie. Toulouse est alors prise, Bordeaux les accueille sans résister. Le roi Ataulf est accompagné par un otage de marque, Galla Placidia, fille de Théodose le Grand et demi-sœur d'Honorius. Prisonnière depuis la prise de Rome, on assiste alors à la formation d'un courant favorable aux Visigoths, au sein de l'aristocratie foncière et commerçante gallo-romaine, confortée par la personnalité d'Ataulf, remarquable par la supériorité de son esprit. Il va se former un gouvernement gallo-romain autour d'Ataulf. La paix avec les Goths se concrétise donc par l'union d'Ataulf et de Galla Placidia le 1er janvier 414 à Narbonne. Mariage somptueux où 50 plats remplis d'or et de pierreries, venant bien sûr du sac de Rome, sont présentés aux époux. Malgré ces nouveaux liens créés, Honorius refusera les céréales demandées par les Visigoths, qui commenceront alors à piller les villes et les villages dans le but de se nourrir. Ensuite, Ataulf et ses barbares se dirigeront vers Barcelone en 415, où Galla Placidia donne le jour à un fils qui mourra peu après. Ataulf sera tué par un serviteur. La princesse romaine va retourner à Rome puis Ravenne auprès de son demi-frère Honorius. Galla Placidia restera toujours attachée à ce monde visigoth hérité de son premier mari. Du 1er au 4e siècle, Toulouse est une ville riche qui se dote de tous les monuments de prestige. Elle possède amphithéâtre, théâtre, capitole, thermes, forum, temple. Des mosaïques et des marbres décorent les villas. Elle possède des aqueducs et égouts. Son architecture et son urbanisme est celui des villes romaines. Toulouse abrite sur ses places des foires animées. Le réseau routier et fluvial permet des liens entre Atlantique, Méditerranée et Pyrénées. Au IVe siècle, elle vient d'être christianisée par Saint Saturnin. Elle a échappé aux invasions des Vandales grâce à ses solides remparts. Ainsi, le traité d'alliance, Fœdus, entre Romains et Visigoths va être signé en 418 entre Valia, le nouveau chef, et les Romains. Ainsi, un droit est donné à ce peuple barbare et germanique à s'installer en terre romaine. Les Visigoths préféreront Toulouse à Bordeaux, car Toulouse est plus proche de la Méditerranée. En 441, leur implantation est terminée dans le Toulousain. Leur limite est le triangle Albi, Saint-Gaudens, Bordeaux, et Toulouse est la capitale. Les Visigoths du royaume de Toulouse vont doubler en nombre, passant de 100 000 âmes, avec 8 000 guerriers, à 200 000. Ceci par le jeu des naissances et la prospérité économique dont ils bénéficiaient. La méfiance avec les Romains va peu à peu disparaître. Théodoric Ier trouve en ces Gallo-Romains de vieilles civilisations, des conseillers qui leur enseignent tous les rouages de l'Empire romain, les instruisent sur les us et coutumes sociales et politiques. La tolérance religieuse semble de rigueur. Les prêtres sont des hérétiques ariens qui, pour ne pas heurter la majorité catholique, se montrent discrets. Face aux évêques catholiques, s'installe un centre religieux hérétique, dirigé par les évêques ariens. On peut penser qu'à la cour des rois Visigoths, située, semble-t-il, au niveau de l'ancien hôpital Larrey, se déroulent des conseils des ministres, mais aussi des réceptions, des banquets, des fêtes, des voyageurs, des visiteurs. Tout cela favorise le commerce avec la capitale visigothique, célèbre pour son fabuleux trésor d'Alaric. Pendant plusieurs années, les Visigoths se cantonneront sagement dans les limites de leur royaume, craignant quand même l'armée romaine, toujours redoutable, et son chef, Aetius. Ils renouvellent leur alliance avec Valentinien III, fils de Galla Placidia, proclamé empereur. Par ces lois que conservent les Visigoths, par la persistance de la culture antique, par la langue qui évoluait moins profondément qu'ailleurs, Rome resta le point de référence du monde visigoth. En 451, la veille de Pâques, Attila s'empare de Metz et fait un massacre. Théodoric Ier a compris dès lors que les Huns risquent d'engloutir son royaume de Toulouse. Dès lors, une coalition de 10 000 Visigoths se mettent en marche derrière leur roi. Ils font la jonction avec les troupes gallo-romaines et romaines d'Aetius à Lyon. Alliés aux Sarmates, aux Armoricains, aux Francs, aux Burgondes et aux Saxons, ce sera la grande victoire des champs cataloniques. Théodoric Ier sera d'ailleurs tué dans le combat. Son fils Torismond lui succède. Il mena à la cour de Toulouse une existence paisible et se félicitait de la paix. Il autorisa la veuve de Théodoric Ier, que certains historiens appellent la fameuse reine Pédoque et qui créa la fameuse légende, toujours en mémoire à Toulouse, à se retirer dans l'église catholique de la Dorade, sur les bords de la Garonne. Magnifique architecture paléochrétienne, de forme circulaire, d'influence byzantine à abside à sept pans, creusée de niches, séparée de colonnes et à coupoles, n'ayant d'ailleurs rien à envier aux mosaïques à fond d'or des églises de Ravenne, d'où son nom, la Dorade. Il ne reste rien aujourd'hui de ce trésor qui a été démoli plus tard, en 1761, sinon que des croquis, une maquette et un descriptif précis. Quelques fragments de mosaïques et 26 colonnes vendues à la ville de Nice en 1925 par l'antiquaire Édouard Lagarde. Malheureusement, nous sommes très pauvres en éléments architecturaux visigothiques, mais nous pouvons nous rendre compte de cet art en Espagne, puisque les Visigoths sont restés jusqu'au début du 8e siècle. Cette architecture, souvent d'inspiration romano-byzantine, montre des édifices massifs, avec des murs épais, le plan basilical ou en croix grecque. Les arcs sont en fer à cheval, sans clé de voûte, et les couvertures charpentées. Les colonnes et les piliers sont les supports et les chapiteaux de style corinthien. La décoration des frises avec des motifs floraux ou animaliers, comme des oiseaux picorant des raisins. L'orfèvrerie se compose de bijoux, parures de vêtements, couronnes, boucles de ceinture ou fibules. En Espagne, le magnifique trésor de Guarazar montre de remarquables pièces d'orfèvrerie. Tout ceci nous donne une idée de ce que devait être Toulouse et sa région vers le milieu du 5e siècle. Nous savons par les écrits que les colonnes du palais de Toulouse, comme les murs, sont ornées de motifs et d'émaux. Après une campagne militaire en Orléanais, afin de contenir les Alains qui menaçaient son royaume, Thorismond ne put s'opposer au complot de son frère, qui devint Théodoric II. Théodoric II va prendre, lui, soin de l'administration du royaume. L'héritage romain s'est bien conservé dans le sud de la Gaule, occupé par les Visigoths. Théodoric II s'initie à la poésie de Virgile et tenait une cour où les vêtements et les rituels rappelaient Rome et où se mêlaient l'élégance grecque, l'abondance gauloise et la vivacité romaine. Théodoric montra une grande amitié au grand homme de lettres gallo-romain, Sidoine Apollinaire. Celui-ci a été le grand témoin de son temps. Il sera plus tard évêque de Clermont-Ferrand. À cette date de 454, on ne note ni humiliation, ni vexation pour ne pas heurter la majorité catholique de la population toulousaine. La tolérance, de part et d'autre, semble de rigueur. Les environs de Toulouse, nous dit Sidoine, sont couverts de forêts, notamment les terrasses de la Garonne. Théodoric II part souvent pour la chasse, portant son arc en bandoulière. Exercés à l'arc dès leur plus jeune âge, les Visigoths sont d'une adresse surprenante. Les festins à la cour sont réputés, et de bon goût, sans excès. On y parle sérieusement. On finit la soirée en jouant au dé. Et on n'entend jamais de musique. En 466, Théodoric II est victime à Toulouse d'un complot familial. C'est son frère Euric qui lui succède. Et Euric cherche l'appui de l'empereur d'Orient, lui. Ainsi, des relations étroites s'établissent avec Constantinople et Toulouse. Dès ses premières années du règne, Euric confirme, lui, l'attachement des Visigoths à l'hérésie arienne. Il entreprend contre les catholiques une politique de répression religieuse. Les évêques catholiques sont spoliés, persécutés. Sidoine Apollinaire part dès lors pour Rome, afin de plaider la cause gallo-romaine. Rome n'empêchera pas l'expansion des Visigoths en Auvergne et en Narbonnaise. Il s'empare de la Touraine et du Berry. En Espagne, Euric occupe Saragosse et Pampelune, ainsi que la Tarraconaise, et achève de pacifier le pays avec l'accord de l'empereur d'Orient, Zénon. Sidoine Apollinaire sera amené en rétention. Il sera ensuite libéré et mourra peu après. Auparavant, en 476, c'est la fin de l'Empire romain d'Occident. L'occupation visigothique sera achevée, elle, en 480. Les deux tiers des terres sont alors attribués aux barbares et non plus un tiers, comme en 418. C'est le code de loi visigothique qui portera le nom de code d'Euric. Les privilèges gallo-romains sont abolis. Les mariages mixtes entre catholiques et ariens sont interdits. L'intolérance religieuse des Visigoths se poursuit sous les formes les plus sournoises. Euric meurt en 484 et son fils Alaric II lui succède. Au moment où le destin des Visigoths du royaume de Toulouse commence à basculer, Alaric II tente d'apaiser les conflits religieux dans son royaume entre ariens et catholiques. Mais l'opposition catholique va se montrer favorable aux barbares francs qui sont regroupés à la limite du royaume goth, le long de la Loire. L'empereur Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths, est lié aux deux camps, les francs et les Visigoths. Il est le beau-frère de Clovis et le beau-père d'Alaric. Il va essayer de calmer diplomatiquement les deux camps, mais Clovis, désireux d'en découdre, passe la Loire et envahit le sud. Bat les Visigoths à Vouillé, c'est une grande bataille, en 507. Alaric meurt dans la bataille, et Toulouse est envahie, devient ville ouverte. La dynastie wisigothe se réfugie en Espagne. Par dizaines de milliers, les Wisigoths s'enfuient. Cet exode ne se fit pas sans drame. Les Wisigoths auraient emporté, caché aussi, le trésor d'Alaric. Certains le cherchent toujours dans la région de Rennes-le-Château. Mais en réalité, il parvint sûrement à Barcelone puis Tolède, nouvelle capitale wisigothique. La langue des Goths cesse d'être utilisée à partir du VIe siècle, suite aux défaites face aux Francs, ainsi qu'à la destruction des Goths d'Italie, les Ostrogoths. Malgré la romanisation et la conversion au catholicisme, cette langue va survivre en Espagne jusqu'au milieu du VIIe siècle. On la retrouve dans certains mots du vocabulaire modifiés par l'utilisation de l'occitan, surtout dans la toponymie des localités se terminant par « en », comme Saint-Ain, Arguin. C'était là la fin du royaume wisigoth de Toulouse, qui aura duré presque un siècle et qui a contribué à façonner l'appartenance à notre identité méridionale. J'ai pris des sources au cours de plusieurs conférences, notamment une conférence en mai 2016 à Patrimoine en Volvestre d'Emmanuel Boube, qui est professeur et spécialiste des Wisigoths. Aussi, à Patrimoine en Volvestre, Jean-Luc Baudarchouk, qui est professeur aussi à Toulouse-le-Mirail et qui nous a fait une conférence sur le VIe siècle, lui. Enfin, en janvier 2017, l'Association toulousaine d'études médiévales nous a présenté les Wisigoths par le professeur Daniel Caz. J'ai pris aussi des références dans le cours d'histoire de l'art du professeur Christophe Balagna de l'Institut catholique sur Ravenne, joyau de l'art paléochrétien. Enfin, un ouvrage, Le royaume wisigoth d'Occitanie, de Joël Smith. Je vous remercie et à la prochaine fois. Retrouvons-nous très vite, si vous le voulez, pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5.